Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Le pape François a décidé de célébrer la première messe de la Toussaint de son pontificat vendredi au grand cimetière romain du Verano. Il imitera ainsi Jean-Paul II qui avait fait de même en 1979. Le pape François qui présidera un consistoire le 22 février s'est confirmé. Pour la première fois depuis son élection, il fera de nouveaux cardinaux. Actuellement, le Sacré Collège compte 201 membres, dont 109 électeurs. Dans ce magazine, nous parlerons également de l'amertume des chrétiens en Inde après l'acquittement d'une cinquantaine d'extrémistes impliqués dans les massacres de 2007. Vous entendrez par ailleurs un missionnaire français qui vit au Brésil. Nous évoquerons l'engagement de l'Église catholique en Amazonie. L'Église fête la Toussaint, une des grandes solennités de l'année liturgique. Elle propose d'honorer la foule innombrable et anonyme de ceux qui, ayant achevé leur parcours terrestre, partagent désormais la vie, le bonheur, la sainteté de Dieu. La Toussaint nous rappelle aussi que la sainteté n'est pas réservée à quelques-uns, elle est la vocation première de tout baptisé. Mais la Toussaint est souvent confondue avec la commémoration des défunts, célébrée, elle, le 2 novembre. Alors que représente la Toussaint et que nous enseigne la foi chrétienne sur la mort? Élément de réponse avec le père Michel Salamollard, prêtre du diocèse de Sion, en Suisse.
Un jour du souvenir, un jour de regret, de tristesse, surtout si on a vécu un deuil assez récent. Mais il semble que ce réveil quand même en nous, même encore une fois chez des gens qui sont peu croyants, qui se diraient peut-être agnostiques, se réveille tout de même cette vieille intuition qui vient du fond des âges de l'humanité, à savoir que quelque chose en nous se révolte contre l'idée de la mort comme anéantissement, et donc une espèce d'ouverture à un au-delà possible, plus ou moins entrevu.
Malgré la baisse drastique de la pratique religieuse dans les sociétés européennes contemporaines, l'enterrement chrétien est encore très répandu, très diffusé. Là encore, les gens trouvent peut-être encore un écho dans le message de l'Église.
Oui, tout à fait. Donc, ils trouvent une proposition de réponse à cette question ou cette intuition qui est déjà en eux, plus ou moins formulée. Ce début d'espérance, pourrait-on dire, eh bien, dans l'enterrement religieux, reçoit une proposition de réponse.
Justement, que dit la foi chrétienne sur la mort?
Elle dit deux choses complémentaires. La première, c'est que c'est une réalité. Donc, c'est la limite ultime de notre condition humaine, qui en comporte bien d'autres, bien sûr. Mais ça, c'est la limite ultime. Donc, il y a d'abord la prise en compte de cette réalité-là, au fond, qui est quelque chose de bienfaisant, puisque ça devrait nous pousser à vivre le moment présent de la meilleure façon possible. Si je sais qu'un jour je vais mourir, eh bien, je peux me dire, essayons d'être un vivant avant d'être mort. Et qu'est-ce que ça veut dire être un vivant, peut-être un aimant, quelqu'un qui apporte quelque chose aux autres, etc. Et puis, la deuxième vérité complémentaire, c'est que cette mort, elle est pour une autre vie, une vie nouvelle, qui est en, d'une part en continuité avec cette vie présente, déjà riche de bonheur, mais jamais de bonheur totalement garanti et plaigné, et passage vers cette vie nouvelle dont nous, chrétiens, avons déjà l'avant-goût et comme le gage par la résurrection du Christ. Donc il y a cet immense événement de la résurrection du Christ, mort et résurrection. Partageant notre condition humaine, il est mort, et de la façon que l'on sait. Mais ensuite, il y a cette expérience qu'ont fait les premiers disciples de rencontrer un vivant qui ne s'était pas évadé de la condition humaine, puisqu'il garde les traces de ses plaies. C'est un être qui est encore corporel, mais on voit que son corps échappe aux limites de la vie présente. Et voilà, il nous promet de nous attirer, de nous entraîner avec lui dans cette vie nouvelle du ciel. Alors c'est là que la fête des morts, si vous voulez, rejoint la Toussaint. La fête des morts nous mène sur le cimetière, et puis la Toussaint nous ouvre une fenêtre de foi, une fenêtre mystique sur le ciel, cette foule innombrable de vivants qui sont parvenu dans la demeure de Dieu.
Le père Michel Salamollard, interrogé par Olivier Tosseri. Ce vendredi 1er novembre à 16h, le pape François célébrera la messe au cimetière romain du Verano. À la fin de la célébration, il bénira les tombes et priera pour les défunts. C'est en 1993, il y a 20 ans, que Jean-Paul II s'était rendu pour la dernière fois au cimetière du Verano pour y célébrer la messe de la Toussaint. Benoît XVI ne s'y est jamais rendu, mais en 2008, il avait célébré une messe en la basilique attenante Saint-Laurent, hors les murs. J'ajoute que dans plusieurs diocèses, les fidèles sont invités à participer à des messes festives, à l'adoration eucharistique, au sacrement de réconciliation, mais aussi à des concerts. Par ailleurs, venus de Suède, d'Allemagne, d'Espagne et bien sûr de France, de nombreux groupes de jeunes choisissent la période de la Toussaint pour participer aux rencontres internationales à Thésée. Le Vatican a confirmé la tenue le 22 février prochain du premier consistoire de ce pontificat, au cours duquel le pape François créera des cardinaux. Ce consistoire sera précédé et suivi d'autres réunions importantes. Le directeur du bureau de presse du Saint-Siège a apporté plusieurs précisions. Antonino Gallofaro.
C'est un programme chargé qui attend le pape au mois de février. Le père Lombardi l'a confirmé lors des réunions début octobre du Conseil des cardinaux puis du Conseil du Synode. Le pontife argentin a annoncé son intention de convoquer un consistoire pour la création de nouveaux cardinaux. Celui-ci se tiendrait à l'occasion de la fête de la chaire de Saint-Pierre le 22 février. Le nombre de cardinaux électeurs est fixé à 120, ils ne sont actuellement que 109. Des barrettes sont donc à pourvoir et les pronostics vont déjà bon train quant à leur répartition géographique. Comme ses prédécesseurs, le pape François en profitera pour organiser pendant la même période d'autres réunions qui exigent la présence de cardinaux du monde entier. Ainsi, le Collège des cardinaux se tiendra probablement les 17 et 18 février, le Conseil du Synode les 24 et 25, et la troisième réunion du Conseil des 8 cardinaux conseillers devrait être convoquée pendant la même période, ainsi que le Conseil dit des 15 qui s'occupe des questions économiques et d'organisation du Saint-Siège. Le Vatican sera donc placé au mois de février sous le signe de la collégialité, si chère au pape François, qui travaille depuis son élection à la mise en place des réformes souhaitées par ses électeurs. Quant à l'arrivée du nouveau secrétaire d'État du Saint-Siège, Mgr Pietro Parolin, le directeur du bureau de presse du Saint-Siège a invité au calme. Il arrivera d'ici la fin du mois de novembre, mais pas d'un jour à l'autre. Après son opération, il va bien, mais il doit compléter sereinement sa convalescence pendant quelques jours encore. Son arrivée n'est donc pas imminente.
Agenda chargé également à plus brève échéance pour le pape François. Le 21 novembre, journée de prière pour les religieuses cloîtrées, le pape Bergoglio visitera le monastère des Bénédictines sur la colline romaine de l'Aventin. Dans l'après-midi du 23 novembre, il rencontrera les catéchumènes. Le 30 novembre, il participera aux vêpres avec les universitaires et le 1er décembre, premier dimanche de l'Avent et début de l'année liturgique, il se rendra à la paroisse romaine de Saint-Cyril d'Alexandrie. Le 14 novembre, vous le savez déjà, il se rendra au palais du Quirinal, résidence du chef de l'État italien, et le 15 novembre, dans la basilique Saint-Pierre, il conférera personnellement l'ordination épiscopale au père Fernando Vergès Alzaga, nouveau secrétaire général du gouvernorat de l'État de la Cité du Vatican. L'Église catholique d'Amazonie s'est réunie pour la première fois cette semaine à Manaus, dans le nord-ouest du Brésil. Une rencontre d'autant plus historique qu'elle intervient dans le cadre des 400 ans de l'évangélisation de l'Amazonie. À l'ouverture des travaux, le cardinal Claudio Humes, président de la commission épiscopale pour l'Amazonie, a affirmé qu'il fallait oser et aller de l'avant. Évêques, laïcs, agents de la pastorale et responsables d'institutions ont discuté ensemble des réalités politiques, économiques, culturelles et religieuses qu'ils vivent. Et ils ont réfléchi sur les réponses à apporter aux défis sociaux et environnementaux de la région. Le pape François l'avait dit lors de son voyage au Brésil au mois de juillet pour les JMJ, l'engagement de l'Église pour l'Amazonie est crucial. Écoutez le père Jacques Ahusso, prêtre du diocèse de Cahors. Il est missionnaire depuis 6 ans à Boa Vista, au Brésil. Manuela Afigi l'a interrogé par téléphone.
L'histoire s'est donnée par une colonisation qui a beaucoup marqué l'histoire de ces pays, en faisant des clivages entre des populations qui se sont développées minoritaires dans la richesse et d'autres qui se sont développées dans le sous-développement et l'exploitation. L'Amazone, jusque-là, était une région relativement tranquille, même s'il y avait déjà des forces qui pénétraient dans ces régions. Enfin, on n'en parlait pas beaucoup. Au Brésil, on parlait de Rio, on s'en parle, les pôles de développement. Mais ce pôle de développement, aujourd'hui, dans l'évolution du monde global, atteint l'Amazone. Pourquoi ? Parce qu'il y a ici de la vie, des potentialités énormes qui sont en train de déstabiliser des peuples et auquel l'Église donne toute son attention depuis longtemps. Alors, le pape attire l'attention sur l'Amazon parce que l'Église écrit depuis longtemps, depuis une quarantaine d'années, attention, ici il y a des gens qui sont menacés dangereusement. Oui.
Des populations menacées par quoi exactement ?
Écoutez, il y a plusieurs problèmes. Il y a une avancée profonde, rapide, violente du pouvoir, enfin du capital, en gros des intérêts, quoi, des industries qui cherchent tout sur leur terre, voyez, pour prendre possession des terres et de ces lieux, pour exploiter le bois, pour exploiter l'eau, pour faire du tourisme et pour des minéraux de pointe, vous voyez, que l'on trouve d'ici dans ces régions. Ce sont des terres neuves qui sont soumises à des exploitations, explorations nouvelles. Alors le dynamique, vous voyez, la politique en gros est asservie par l'argent, quoi. C'est le pouvoir de l'argent qui est tyrannique, assassin d'une certaine manière, voyez, contre tous les droits qui sont établis, les droits des hommes, la constitution du Brésil, enfin, ça passe ou ça casse. Et c'est très impressionnant. Tous ceux qui ont gagné de l'argent au Brésil viennent prendre des terres ici pour planter du soja, qui va ensuite exporter dans nos pays pour nourrir nos vaches en Europe, etc. On cherche des minerais de pointe pour soutenir nos industries de pointe en France. Alors évidemment, tous ces peuples, qui sont des peuples indiens mal préparés à ça, qui vivent dans une espèce de symbiose fragile avec la nature, ben, ils sont pris à l'étouffoir dans ce monde-là, vous voyez. Trompés, anéantis, déroutés. Aujourd'hui, apprendre le dialogue, apprendre le respect de ces peuples, qui est imposé par la loi aussi. Enfin, le Brésil, depuis la constitution de 88, dit que les peuples indiens, les peuples indiens, ont droit au respect à leur culture et à leur manière d'être et de vivre. Doit être respecté. Alors évidemment, ça a des conséquences politiques énormes. Respect à leur terre, vous voyez. Parce que les Indiens vivent avec la terre c'est leur mère, c'est pas simplement un lieu d'exploitation pour tirer son sang, c'est quelque chose de biologique, d'ontologique profond. Voyez. Viennent ces industries derrière, ces grosses sociétés qui détruisent, vous voyez, qui détruisent à la fois la terre et ceux qui y vivent.
Je reviens à ce que vous disiez en début de cette interview, cette situation catastrophique que vous décrivez, l'Église la répercute depuis longtemps, mais comment concrètement l'Église peut-elle venir en aide aux populations autochtones ? Comment peut-elle protéger la biodiversité de toute une région.
Eh bien voilà, c'est la grande question. Voyez, comment qu'elle fait en visant l'Évangile ? Les chrétiens d'ici, il y a des choix nouveaux qui sont à faire, voyez, qui sont d'abord faire des communautés chrétiennes, et l'Église s'y emploie depuis, on a parlé ici beaucoup en Amérique latine, des communautés ecclésiales à la base, c'est-à-dire des communautés qui sont faites avec les gens, avec leurs soucis, leurs préoccupations, leur volonté de vivre, en donnant dans ce peu le dynamisme de l'Évangile, dans le respect des uns des autres, dans la communion fraternelle, et une lucidité pour voir ce qui est destructeur et ce qui est porteur de vie et d'avenir, avec la force d'Esprit Saint, pour affronter des situations où l'argent et le pouvoir, en gros politique, enfin, démentiel, exagéré, déterminent l'anéantissement d'un certain nombre de gens. Voyez. Alors, l'Église, elle est appelée à travailler dans ces communautés, une Église toute ministérielle, où chacun, par son baptême, est appelé à devenir acteur, actif dans cette Église, avec le ministère des prêtres et des évêques. Alors il y a tout un travail qui se fait ici, avec nos églises, nos diocèses, pour créer une communion et fortifier ces communautés qui sont soumises à des difficultés, bien sûr, et qui ont besoin d'aide et d'appui. Alors la parole de Dieu est déterminante dans ces lieux. Chez nous, la dimension prophétique, défendre le peuple, donner au peuple de la vie, de l'espérance, l'aider à tenir debout, mettre le peuple sur pied, vous voyez, c'est fondamental.
Parlons maintenant du clergé local. Le pape François a exprimé le désir que se développe un vrai clergé autochtone. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Eh bien, écoutez, le clergé, on est dans des pays nouveaux. Moi, je suis un prêtre importé, comme bien d'autres, avec des religieux, des religieuses. On contribue à aider ces églises diocésaines. C'est une église appelante. Alors, il y a de gros problèmes. Le premier problème, il est financier. C'est-à-dire que pour maintenir une institution au séminaire, il faut quand même, il faut des gens formés. Nos églises appellent des théologiens, des formateurs, voyez, pour ce clergé, dans ce contexte latino-américain. Ça demande aussi une certaine part financière. Alors, les églises s'organisent entre elles pour soutenir ces lieux de formation qui sont des séminaires, des instituts. Alors, ces religieux, enfin, tout ça, il y a une espèce d'organisation pour privilégier, on ne peut pas être sur tous les fronts, mais privilégier la formation. Vous voyez, je suis impressionné, moi, de voir les prêtres jeunes, qui sont des prêtres dynamiques, intelligents. Alors, évidemment, il y a tous les cas de figure, quoi. Chacun a un peu sa potentialité. Mais enfin, chacun fait un peu ce qu'il peut avec ce qu'il a. Il y a une grande importance des prêtres depuis une vingtaine d'années, qui sont des prêtres brésiliens, autochtones, enfin de ces terres, et qui prennent l'Évangile, leur Église à bras le corps. Et on a besoin de les soutenir, de les aider, vous voyez.
C'était le père Jacques Cahusseau, prêtre du diocèse de Cahors, missionnaire depuis 6 ans à Boa Vista, au Brésil. Le président du Conseil pontifical pour la famille effectuera justement une visite au Brésil du 4 au 8 novembre. Monseigneur Vincenzo Paglia remettra une somme d'argent à l'archevêque de San Salvador de Bahia au profit d'un centre d'accueil pour les enfants des familles démunies. Le fonds sera consacré à des travaux d'adaptation devant permettre d'accueillir les enfants de détenus, de toxicomanes ou de SDF. Le Conseil pour la famille a déjà soutenu des projets analogues, notamment un village pour enfants au Rwanda. C'est un coup dur pour les chrétiens en Inde. 54 fondamentalistes hindous jugés pour leur implication dans les pogroms antichrétiens de Noël 2007 dans l'Orissa ont été acquittés mercredi pour manque de preuves. Selon l'agence de presse Église d'Asie, le juge qui a fait connaître son verdict est le même magistrat qui avait condamné sans preuve au début du mois 7 chrétiens à l'emprisonnement à vie pour le meurtre d'un leader hindouiste, meurtre pourtant revendiqué par les maoïstes Bernard de Cotigny.
La vague de violence s'est déroulée du 24 au 28 décembre 2007. Des centaines de maisons de chrétiens furent incendiées et des dizaines d'églises détruites. Dans le village de Barkama, une centaine d'extrémistes hindous s'en prirent à une assemblée de fidèles qui participaient à la célébration de la nuit de Noël. À chaque attaque, la police, appelée sur les lieux par les victimes, se contenta d'assister aux violences sans intervenir. Depuis, d'autres États de l'Inde ont été le théâtre de violences antichrétiennes. Elles n'ont été que très partiellement portées devant les tribunaux. La plupart des témoins se sont rétractés de peur de représailles. Après l'acquittement des 54 hindouistes, le président de la commission justice et paix de l'épiscopat catholique a exprimé son amertume et son indignation. Cela prouve une fois de plus, a-t-il dit, que la justice n'a pas été rendue alors que les preuves étaient évidentes. Pour sa part, le secrétaire général du Conseil des chrétiens indiens craint que cette nouvelle injustice ne plonge à nouveau les chrétiens dans la terreur. Les coupables ont été relâchés et la protection de leurs victimes est loin d'être assurée. Plusieurs personnalités chrétiennes accusent ouvertement les hindouistes de mener, avec la complicité des autorités, un programme de destruction totale des communautés chrétiennes.
En Bretagne, la crise de l'agroalimentaire a pris un tour dramatique par son ampleur et par ses conséquences sociales en cascade. Malgré l'annonce de la suspension de l'écotaxe, la colère ne retombe pas. Habituellement discrets sur la scène publique, les quatre évêques de la région ont profité de la fête de la Toussaint pour lancer un appel à la solidarité et au dialogue et pour inviter les Bretons à ne pas céder à la tentation de la violence. Dans un communiqué, les évêques se prononcent en faveur d'un modèle économique rénové, juste et pérenne pour sortir de l'ornière. Ces derniers mois en Bretagne ont été marqués par une litanie de mauvaises nouvelles, suscitant la colère et le désespoir des salariés. Des milliers d'emplois ont été supprimés et des plans sociaux sont à venir. Les évêques de Bretagne appellent donc à la solidarité avec les personnes et les familles menacées par la misère sociale. Ils invitent les communautés catholiques à faire tout leur possible pour mettre en œuvre des actions locales de soutien et de réconfort. Ils plaident également en faveur du dialogue entre tous les acteurs pour que soient trouvées des solutions juste et respectueuse et que soit élaboré un nouveau modèle économique de l'agroalimentaire breton avec sa production de qualité. Le contexte de la mondialisation exige, selon les évêques, des règles d'équité et cela de façon urgente. Au retour au Vatican, où ce jeudi, le souverain pontife a créé la surprise en célébrant sa messe du matin en la chapelle Saint-Sébastien de la basilique Saint-Pierre, où est enterré Jean-Paul II. Dans son homélie, il a souligné qu'on ne pouvait vivre à moitié l'amour pour Jésus à sa convenance, avoir un cœur tiède comme celui de Jérusalem. L'amour du Christ, a-t-il dit, les chrétiens doivent le placer au centre de leur vie. Tous les jeudis, la communauté polonaise de Rome participe dans cette même chapelle à une messe en mémoire de Jean-Paul II, diffusée par Radio Vatican. Toujours ce jeudi matin, le souverain pontife a reçu les membres du Cercle de Saint-Pierre. Ils étaient venus, comme chaque année, remettre la recette de la collecte effectuée dans les églises de Rome. Fondée à Rome en 1869 pour défendre le successeur de Pierre, cette institution vient désormais en aide aux personnes démunies. Le pape François leur a rappelé que le vrai disciple du Seigneur œuvre personnellement auprès des plus pauvres, des plus fragiles et des marginalisés. Chaque jour, a-t-il dit, nous sommes appelés à devenir la caresse de Dieu pour ceux qui ont oublié les premières caresses et pour ceux qui n'en ont jamais reçu. Et puis sachez que le pape François a approuvé ce jeudi matin la promulgation d'une série de décrets de la Congrégation pour les causes des saints. Parmi les futurs bienheureux figure un martyr roumain, Mgr Durcovici, évêque de Iași, mort en prison sous le régime communiste en 1951. C'est la fin de cette émission, mais je vous invite à nous retrouver également sur internet radiovaticana.va ainsi que sur Facebook Radio Vatican en français. Merci de nous avoir suivis.